Voilà. Oui, ça va. Alors, la caméra passe.
What is this, Connor?
Easy, easy, old man. She's not hurt?
No. No wounded, sir.
Che fai? Aggredisci?
Ma sta fatto, che fai?
It's been a long time.
Yes, ma'am.
Mi conoscete?
Filumena.
Filumena.
Proprio non mi ricordate.
Menose fattissimo. Proprio fattissimo.
Bonjour à toutes et à tous, cinéphiles de toutes les cultures et de toutes les agricultures. Bonjour et bienvenue. Vous écoutez Cinémascope, le magazine qui ausculte l'actualité du cinéma en Sud-Ardèche, et vous avez toujours bien raison. Aujourd'hui, dans ce studio, deux voix qui vous sont familières, celle de Didier.
Bonjour.
Et bonjour Didier, et celle d'Olivier.
Bonjour tout le monde.
Et derrière la console, une touche qui vous est familière aussi probablement, celle de Sylvain.
Salut.
Salut Sylvain. Ouais, t'as... quelle touche, mais toujours.
Magic Touch.
Yes.
La fréquence est touch.
Mm-hmm. Nous allons parler des films Un coup de dé, Winter Break et La Rivière, et puis aussi une ressortie... escale patrimoine, chantons sous la pluie, un petit mot. Bon, on commence tout de suite.
Je redéroule le fil. Encore et encore. Comment ai-je pu en arriver là?
Rio de Janeiro. Juste le nom, ça fait rêver.
Mais on vous a proposé de nous rejoindre.
C'est que ça l'angoisse, l'avion.
Mais qu'est-ce qui l'angoisse, Paul?
Oui, quelle bonne ambiance. Ça donne envie de rejoindre Yvan Attal, Maïwenn et Guillaume Canet. Dans le film Un coup de dé d'Yvan Attal. Alors Olivier, tu es allé voir ce film.
Oui.
Qu'en as-tu pensé? Un film
du
qui...
bien.
Ah, bon, super.
Bah voilà. On a déjà beaucoup parlé à cette antenne, derrière ces micros, des films de genre, d'une sorte de renouveau du film de genre au cinéma et dans le cinéma français en particulier, avec par exemple Le règne animal ou Vincent doit mourir, etc. Donc là, on est bel et bien dans un exercice de style, de genre, avec le thriller psychologique. Moi, ça m'a fait un petit peu penser, en parlant des aînés du genre, ça m'a fait un petit peu penser à Play Misty for Me, Un frisson dans la nuit.
Le premier film de réalisateur de Clint Eastwood, une merveille.
Une petite merveille. Alors, bon, comparaison n'est pas raison, mais disons que ça m'a fait penser à ça. Film de 71. Et puis, Match Point de Woody Allen, qui était aussi, vous savez, Match Point, c'est la balle de match. Et tout le film repose d'une certaine manière sur cette idée de la balle qui est nette, c'est-à-dire qui touche le dessus du filet et dont on ne sait pas si elle va tomber du bon ou du mauvais côté du filet. Les choses tiennent à pas grand-chose et c'est, je crois que dans L'Homme raisonnable, Woody Allen était un peu revenu sur ces questions.
L'homme rationnel,
merci Sophie. Effectivement, il était un peu revenu sur ces questions de l'enchaînement hasardeux, des choses ou non, de la liberté humaine, enfin, etc. Passionnant, évidemment, vu pourquoi j'ai été payé pendant toute ma carrière.
C'est ce que j'allais dire, oui, ça a inspiré ton côté philosophe.
Absolument, complètement. Donc, un coup de dé, c'est le début de la phrase du premier poème un peu obscur de la poésie française, hein. C'est Stéphane Mallarmé, 1897. Un coup de dé jamais n'abolira le hasard. Je vous invite à aller voir ça. C'est marrant, c'est un poème. On comprend tous les mots, mais on ne comprend pas le poème. C'est marrant. Donc, il faut aller se balader un peu là-dedans.
Est-ce que c'est la même chose avec le film? Est-ce qu'on comprend
non.
toutes les scènes sans comprendre le film?
Non, on comprend très, très bien. On comprend très, très bien le film. C'est très bien monté. C'est très bien joué par Yvan Attal lui-même, qui le réalise aussi. Guillaume Canet. Marie-Josée Croze, que moi j'avais vu dans les Invasions barbares de Niarchan. Maïwenn, que je trouve parfaite, qui joue un rôle difficile à jouer et qui le joue superbement bien. Victor Belmondo, qu'on avait vu dans le film de Payon, moi je trouve qu'il est vraiment, magnifique. Ça, voilà. Et puis Alma Jodorowsky, qui joue une jeune femme de la trentaine. C'est la fille de Alessandro Jodorowsky, le metteur en scène, ouais. Polymathe un peu.
Et on pourrait faire toute une émission.
On pourrait faire une émission sur Jodorowsky, on s'ennuierait pas. Et donc là, c'est sa petite fille qui elle-même fait donc très bien le boulot. Donc c'est une chose à laquelle on est un peu habitué hein, dans le cinéma français, des bons acteurs qui font bien ce qu'ils ont à faire, même si ça paraît difficile. Donc là, c'est bien fait. L'histoire, elle est inspirée d'Éric Assous, Baltrap. Éric Assous, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de pièces radiophoniques. Il faillissait bien, et donc là, il nous fait profiter d'une intrigue très très fine avec des enchevêtrements, des événements les uns dans les autres, d'où un coup de dé, hein, justement. Bon, voilà. Donc ça, c'est très très bien fait. La faiblesse du film peut-être, c'est que comme l'histoire est assez complexe à développer. Pour gagner du temps et pour gagner aussi en cohérence, etc., on a une voix off qui nous explique périodiquement un peu les choses qui lui étaient trop difficiles, trop laborieuses. Alors du coup, bon, ça c'est un peu gênant, cette voix off qui vous explique les choses. C'est la voix off d'Yvan Attal qui est tout seul chez lui et qui voilà, raconte. C'est
mise en scène, pardon. Tu dis c'est la voix off de Yvan Attal qui est tout seul chez
non,
lui.
Non, c'est mise en scène. On voit à un moment donné Yvan Attal tout seul chez lui. Et là c'est là qu'on a le début de la voix off. Ensuite, bon, action, mais périodiquement la voix off non mise en scène pour le coup ensuite qui vient vous expliquer. C'est un peu la faiblesse du film, mais avantage, le film est court. Relativement court par rapport au cinéma actuel où on a rarement moins de 2 heures. Bon, là, on a nettement moins de 2 heures. Et ben, du coup, ça gagne en efficacité, surtout pour un thriller psychologique. Alors évidemment, le coup de dé, c'est un peu Jules César, hein, Aléa Jactaès, Aneritos Kupos en grec, parce qu'il l'a dit en grec en fait. Mais bon, c'est pas grave. Et on sait que c'est César qui va franchir le Rubicon pour revenir à Rome faire un coup d'État et prendre le pouvoir. Seulement, c'est une entreprise très audacieuse, et c'est à toutes les personnes réunies du côté gaulois du Rubicon qui dit bon, les dés en sont jetés, allons-y, comme si effectivement, dans un moment d'indécision, quand c'est oui et non, oui ou non, on ne sait pas, on peut très bien se prendre effectivement un dé à jouer. Puis dit, bon, bah, si je fais 3, 4, ou si je fais 4, 5 ou 6, bah, c'est 8. Si je fais 1, 2, 3, bah, c'est non. Et puis on y va. Et puis les dés en sont jetés. Et là, effectivement, c'est un peu ça. C'est l'idée qu'à chaque moment, tous les personnages du film pourraient prendre une autre décision, faire autrement, et le cours des choses en serait entièrement bouleversé. Donc voilà, forcément, la question de savoir si. Derrière ça, il y a ou non un libre arbitre. C'est-à-dire, tout s'enchaîne-t-il de manière implacable et finalement, c'est une destinée ou voire même un destin que je ne fais qu'accomplir, spectateur un peu de ma propre vie. Ou bien est-ce qu'il y a des moments où effectivement, je peux me récupérer et puis dire non, je vais faire autrement. Je vais faire et ça m'évitera peut-être une catastrophe. Voilà. Donc c'est un peu l'idée, et je trouve que c'est bien mis en scène, parce que c'est pas du tout, c'est sous-jacent, c'est en sous-texte, hein, ces questions sur la liberté, sur l'enchaînement des choses, etc. C'est en sous-texte, mais jamais aussi ennuyeux que moi maintenant, voilà, par exemple. Voilà.
Donc si vous voulez vous faire un petit cours de philo plus rigolo, un coup de dé d'Yvan Attal qui est à voir à Aubenas, à Ruyons et à Privas. Une petite bande-annonce en français.
Monsieur, je comprends pas.
Ça se retourne aux yeux, en effet.
Mais je peux pas être calé.
Oh, ne soyez pas modeste, monsieur Kuntz, vous le pouvez tout à fait.
Chaque année à Barton, les étudiants, les enseignants et le personnel quittent le campus pour 2 semaines de vacances pour Noël. Mais il y a toujours quelques malheureux qui n'ont nulle part où aller pour les vacances. Ils sont consignés.
Monsieur Hanam.
Bonsoir, Marie.
Vous vous coltinez le babysitting de Noël cette année, alors comment ça se fait?
Tu sais qu'il a fait ses études ici?
Oui, c'est pour ça qu'il sait comment s'y prendre pour nous faire souffrir un maximum. Oh.
Moi qui croyais que tous les nazis étaient cachés en Argentine.
La ferme, Tully.
Là aussi, bonne ambiance. Winter Break de Alexander Payne, à qui on doit Sideways, Monsieur Schmidt, The Descendant, récemment. Tu es allé le voir,
oui,
Didier.
Oui, oui, je suis allé le voir et j'ai bien fait, parce que c'est vraiment un excellent film. Je crois que c'est le meilleur film à ce jour de Alexander Payne, ce qui, Monsieur Schmidt, tout ça, c'était intéressant. Il y avait toujours un petit arrière-fond. Moi, je regardais ma montre au bout de 1h30, des choses comme ça. Et là, pas du tout, parce que pour rebondir sur ce que tu disais, Olivier, c'est 2 heures, ce film, mais on les voit absolument pas passer ça. Bon, 2 heures maintenant, d'ailleurs, c'est la norme. Ouais, c'est, hein, c'est, voilà. Donc, on est au début des années 70, on s'apprête à fêter Noël, et on est en particulier dans la Nouvelle-Angleterre, dans un collège privé pour gosses de riches. Et dans ce collège, il y a un professeur, le professeur Unam, que tout le monde déteste. Ses élèves, évidemment, mais aussi les autres professeurs, le directeur, qui est un de ses anciens élèves, d'ailleurs, donc ce qui facilite pas forcément les choses. C'est un misanthrope, alcoolique, il est laid, ce qui ne gâche rien. Il est méprisant, il louche. Et cerise sur le gâteau, si j'ose dire, il est affligé d'une pathologie particulière qui fait qu'il sent le poisson tout le temps. Voilà. Donc on le déteste absolument, on le déteste d'autant plus qu'il est absolument épouvantable avec ses élèves. Donc on entend au début de la bande-annonce là, qu'on vient d'écouter. Donc il arrive à chaque fois qu'il arrive en classe, il siffle les Valkyries. Donc ça présume bien de la suite. Il a quand même une qualité, ce personnage. Il a un sens de l'éthique assez profond, ce qui lui vaut d'ailleurs des soucis avec son directeur. Parce que récemment, il a refusé de surnoter le devoir d'un fils de sénateur qui est aussi l'un des principaux donateurs de ce collège privé. Voilà pour situer un peu le décor. Et quand le film commence, on est à la veille de Noël et quelques étudiants ne vont pas pouvoir rentrer chez eux. Donc il va falloir un babysitter pour les garder. Devinez qui ça va être. Ce monsieur Unam, surnommé Neneuil, parce qu'il louche en plus. Voilà, donc ça l'amuse absolument pas. Et ça n'amuse pas non plus les gamins, les mômes qui sont là et tout. Coup de chance pour la majorité. Il y a un petit astuce de scénario qui fait qu'ils vont aller passer des vacances merveilleuses au ski. Et donc on va se retrouver avec 3 personnes dans ce collège complètement déserté sous la neige. Donc notre professeur qui est pas du tout heureux de jouer ce rôle. Un ado de 16-17 ans, alors qui est un des élèves les plus intelligents. Donc il est le monsieur Unam est professeur d'histoire antique. Hein, voilà. Donc c'est un des élèves quand même les moins mauvais, mais c'est aussi un des élèves les plus anarchistes et les plus turbulents. Et un troisième personnage qui est la cuisinière du collège, Marie, qui est une femme de couleur, dont le fils vient d'être tué au Vietnam. Vietnam qui, pendant tout le film, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est toujours, à un moment, l'ado dit « et je voudrais pas aller là où vous savez ». Donc on sent bien cette espèce de chape de plomb qui est sur les gens de façon générale et en particulier sur les jeunes, quoi. Alors évidemment, c'est un scénario qu'on a beaucoup traité au cinéma. 3 personnes qui n'ont strictement rien en commun se retrouvent dans un lieu clos pendant une durée assez longue. Forcément, on va apprendre des choses et on va apprendre en particulier la part d'ombre, les secrets qui vont se révéler peu à peu de chacun de ces personnages. Ça, c'est pour le scénario. Ça peut paraître un peu dur, un peu triste, un peu mélancolique. Ça l'est, mais ça n'est pas que ça. C'est aussi énormément d'humour. Il y a des dialogues qui sont absolument incroyables. Les gens qui se détestent. Alors, il y a une insulte, moi, que j'ai relevée, que j'ai trouvée assez drôle. C'est « Vous avez toujours été un cancer du pénis sous forme humaine ». Voilà, ça donne un peu le ton, quelquefois, que les personnages emploient entre eux, même si, évidemment, au fil du temps, connaître les gens fait qu'on va les apprécier un petit peu mieux. Alors, c'est un vrai film de Noël. Et d'ailleurs, le film arrive ici maintenant, fin janvier, mais il est sorti juste avant Noël, 15 jours avant Noël, je crois, et c'était plutôt intelligent. C'est très, très caustique, c'est très mélancolique, c'est très drôle, et on en sort vraiment avec... on est bien, quoi. On est bien, on a passé 2 heures en compagnie de personnages qui pourraient être nos amis. C'est aussi une très belle reconstitution des 70s. J'ai rarement vu ça, parce que c'est pas du tout ostentatoire. Donc ça joue par la couleur, on retrouve un peu la couleur de l'ectachrome de ces années-là. Les costumes sont absolument parfaits sans que ce soit très très poussé. On est dans un décor, on est vraiment dans les années 70. Il y a une très belle photo qui reconstitue ça, qui restitue ça. Et il y a une bande son où on retrouve quand même Cat Stevens, les Shocking Blue et d'autres. Moi, ça m'a beaucoup fait penser à un vrai film des années 70, là, au film de Al Ashby, Harold et Maude, où on retrouve un peu la même photo. Et là, il y a une petite astuce. Alors, on peut le citer parce que c'est vraiment le tout début, c'est le pré-générique du film, où on a, comme on avait à l'époque, les cartons qui annoncent le studio, etc., et qui est un petit peu rayé, et qui cracouille un peu comme la pellicule 35 mm. Donc, c'est un petit clin d'œil, je crois, du réalisateur pour nous dire, avant que le film commence, bon, voilà où on est et voilà où on va aller, quoi. Donc, c'est tout sauf pessimiste. Et puis c'est aussi interprété par 3 acteurs principaux qui sont vraiment magnifiques tous les 3 dans des registres complètement différents, et je pense particulièrement à Paul Giamatti qui joue Monsieur Ullman, le professeur, qui est un acteur qu'on voit souvent, mais dans des deuxièmes, dans des troisièmes, dans des quatrièmes rôles, qu'on remarque pas complètement, enfin qui est toujours un peu en retrait. Et qui là, vraiment, bon, c'est je dirais pas c'est le premier rôle, parce qu'il y a 2 rôles principaux, mais il est quand même mis très très en avant, et il joue à la perfection ce personnage absolument improbable et imbuvable à première vue.
À première vue et à seule vue, puisqu'il louche et qu'il n'a qu'un œil, c'est ça ?
Non, il a 2 yeux.
Ah, il a 2 yeux.
Il louche.
Mais il louche.
Justement, une des grandes questions fondamentales du film, c'est quand on vous parle, quel œil il faut regarder ?
C'est toujours une excellente question. Là aussi, un petit cours de philo. Quel œil faut-il regarder ? Voilà. Winter Break de Alexander Payne, c'est à voir au navire. Un petit mot quand même sur La Rivière de Dominique Marchais. On a un petit son, mais tout petit, petit.
Tu vois, il y a tout ce qu'il faut pour faire un ruisseau. Hein. Regarde, il y a les galets, il y a un lit qui est bien marqué, il y a des berges. Il manque juste un truc, quoi. Ben, c'est de l'eau, quoi.
Ouais,
et voilà.
Ouais, ça pique. Hein.
Ouais. Il manque juste un truc, c'est de l'eau.
C'est de l'eau, ouais. Je crois qu'il y a pas mal de régions de France où on va entendre ça de plus en plus souvent. Moi j'ai vu le film au mois de septembre, donc j'ai pas trop m'étendre dessus parce que c'est un souvenir un peu lointain déjà et tout, mais Dominique Marchais est un réalisateur de documentaires qui s'intéresse à la nature, à l'écologie, et qui a à mon sens une particularité, c'est que non seulement il s'intéresse à l'écologie en termes de qualité de vie, de préservation, voilà, de ce qu'on entend d'ailleurs, ce qu'on voit dans un certain nombre de films, de livres, d'articles de journaux aujourd'hui, de déclarations politiques, mais il a quelque chose en plus que moi j'apprécie beaucoup, c'est qu'il dit aussi, mais le paysage aussi c'est très important. C'est très important pour notre état mental. Et là, je suis complètement d'accord avec lui, et toutes ces haies qu'on a arrachées, tous ces arbres au milieu des champs qu'on a arrachés également, etc. Bah, c'est quelque chose... moi, je passe par là de temps en temps. Je vous assure que quand on traverse la Beauce, on n'en sort pas le sourire aux lèvres. Quoi. C'est d'une tristesse.
Pareil pour la plaine Lorraine, on en parlait.
Voilà, c'est exactement pareil. Et je crois que c'est une des grandes qualités des films de Dominique Marchais, c'est de nous rappeler ça. Et là, donc, après, je crois que c'est son 3e ou 4e long-métrage, donc il s'intéresse plus particulièrement, cette fois, comme le titre l'indique et comme le petit extrait qu'on a entendu l'indique également, au cours d'eau.
Donc, La Rivière, qui est à voir au navire, en ce moment, tu parlais de films un petit peu... militant ou politique, en tout cas. Je rappelle la suite et la fin du deuxième festival du film paysan. Les dernières séances seront ce dimanche, avec à 14h, au Béage, La ferme des Bertrands. C'est 50 ans dans la vie d'une ferme, c'est un film de Gilles Perret, et qui est en avant-première puisqu'il sort mercredi prochain. Donc ça, c'est ce dimanche à 14h, au Béage. Et puis la dernière de ce festival, c'est Nos Soleils, un film de Carla Simon, à 17h à Privas, donc dimanche. Et c'est une histoire de panneaux solaires qui prennent la place, qui pourraient prendre la place de pêcher, c'est-à-dire de culture. Voilà, les deux derniers films du Festival du film paysan. Puis bien sûr, à chaque fois, il y a des discussions.
Oui, à propos de discussion, justement, on a une personne, un philosophe là, du Puy-de-Dôme, Jean-Marc Guitti, qu'on a invité ici à Fréquence 7 pour les interviews, qui est un monsieur que je trouve intéressant dans sa pensée, une vraie pensée originale. Son dernier bouquin porte sur la Camargue, il parle d'écologie, et il milite, on peut dire qu'il milite, effectivement, pour une autre écologie, une écologie au-delà, et qu'il appelle l'écologie poétique, c'est-à-dire c'est l'idée, et c'est pas une chose de doux rêveur, hein, pas du tout. Il s'agit simplement de dire que le respect poétique, dont tu parlais de paysage, Didier, à l'instant, le respect poétique des lieux entraîne derrière lui un respect écologique. Moi, je pense souvent, en ces termes-là, à mon pays d'origine, qui est le pays messin, la région de Metz, et c'est vrai que si nos politiques étaient un peu plus poétiques, on s'en trouverait, à mon avis, pas plus mal.
Mais c'est utopique.
Peut-être. En tous les cas, ça pique.
Ouais. Ouais. Aimer les paysages les pays pour les préserver. Pour avoir envie de les préserver.
Et les gens qui sont dedans, en même temps.
On va terminer justement avec un petit peu de poésie.
Singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart.
Ouais, une petite escale, une escale patrimoine au navire de Bonnat avec Chantons sous la pluie, le chef-d'œuvre de Gianni Kelly, en 1953. Déjà, il a été reprojeté, c'était le 25, c'est quand ? C'est hier, au navire ?
Oui, c'était hier au navire, avec un débat, je crois.
Voilà, et il reste aussi, donc même principe, une petite introduction et puis une discussion à la fin, deux projections qui auront lieu lundi à 15h et mardi à 20h45. Un mot, Didier, sur un
chef-d'œuvre. Ah oui, avec grand plaisir. Donc c'est vrai que si vous avez écouté un peu trop les infos ces derniers temps, si vous avez la grippe, si je sais pas le Covid ou je sais pas quoi, vous êtes pas bien dans votre tête et tout, allez voir. Enfin, ne prenez pas d'antidépresseurs, c'est pas la peine, rien. Allez voir Chantons sous la pluie, et film qui devrait être remboursé par la sécurité sociale. On devrait tous avoir le DVD chez nous et le regarder quand ça va pas. Donc oui, c'est le chef-d'œuvre de la comédie musicale de Stanley Donen et Gene Kelly, puisque toutes les chorégraphies et une partie de la mise en scène sont signées Gene Kelly, qui ici est donc réalisateur, chorégraphe, comédien, chanteur, on l'oublie aussi souvent, et c'est un réel plaisir. Donc l'histoire, en deux mots, on la connaît, c'est le passage du cinéma muet au cinéma parlant, avec un couple d'acteurs extrêmement célèbres en cinéma muet, et quand on passe au parlant, la dame, elle a beaucoup de mal. C'est ce qu'on retrouve, c'est curieux, parce que je l'ai revu il n'y a pas si longtemps que ça, et on retrouve ça chez Damien Chazelle dans Babylone, qu'on a vu il n'y a pas longtemps,
on l'avait
et dans Chantons sous la pluie, on a également cette cabine son D'où le réalisateur sort, parce que comme personne sait comment ça marche, on tire sur les câbles, machin, les gens parlent, parce qu'on ne sait pas qu'il faut se taire, etc. Et on retrouve tout ça. Donc, un film à la fois comédie musicale absolument formidable, qui nous met vraiment beaucoup de baume au cœur, qui nous rend de bonne humeur, qui nous rend gai et joyeux, c'est pas tous les jours. Et puis cette histoire du cinéma qui est très très présente dans le film, c'est un film incontournable. Et s'il fallait juste une raison pour aller le voir, alors qu'il y en a 10 000, mais s'il fallait en choisir une, ben ce serait effectivement cette séquence au milieu du film, Chantons sous la pluie, où Jane Kelly chante et danse sous la pluie dans un décor extraordinaire. Et là, on peut le voir 10 fois de suite, on s'en lasse jamais. C'est absolument formidable.
Ouais, à propos de chorégraphie, ça m'intéresse un petit peu. Ce qu'il faut noter, moi j'ai chez moi l'image avec une photo d'un moment d'un pas de deux, et il y a une espèce de perfection dans l'interprétation chorégraphique qui est incroyable.
C'est assez incroyable.
C'est jusqu'au bout des doigts. C'est quelque chose de fabuleux.
Il y a une lumière qui est différente de la lumière du film, qui devient tout d'un coup totalement autre. On est transporté ailleurs, dans un décor immense et vide, jusqu'à l'apparition du policier. Enfin voilà, non, c'est un très très grand film.
C'est énorme.
Et on parle de Jane Kelly, mais on peut aussi rappeler les deux comédiennes principales, Jane Hagen, qui joue la star du cinéma muet, mais qui passera jamais au parlant, parce que non seulement elle a une voix épouvantable, mais elle est d'une bêtise incommensurable. Et puis, Debbie Reynolds, donc, qui a fait la carrière qu'on connaît jusqu'il y a très peu, quand, avec ses derniers films. Donc, voilà, un film à voir. Donc, lundi, mardi, encore deux possibilités de le voir sur grand écran, copié, restauré, fabuleux.
Merci Stanen Donen, merci Jane Kelly, merci Didier, merci Olivier. Vous nous avez, enfin en tout cas moi, vous m'avez donné envie d'aller au cinéma et de voir ces films. Merci Sylvain pour la réalisation de cette émission. On se retrouve vendredi prochain pour un prochain Cinémascope et d'autres cinémas, d'autres envies de films. Ciao.
Au revoir.